Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, à quoi les rayons cosmiques peuvent-ils bien nous servir ? En 1912, Paul Valéry écrivait « Les recherches insensées sont parentes de découvertes imprévues ». Il avait raison. À la façon des gouttes de mercure qui s'écoulent, les idées scientifiques suivent des chemins difficiles à anticiper. Qu'elles aient ou non des visées d'emblée pratiques, elles se répandent, se fragmentent, se retrouvent pour former de nouvelles confluences, ce qui rend leur destin imprévisible. Ainsi, en 1915, Albert Einstein n'aurait pu deviner que la prise en compte des équations de sa nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale, serait un jour nécessaire au bon fonctionnement de nos GPS. Et dans les années 1920, les pères fondateurs de la physique quantique ne se doutaient pas que leur très abstraite réflexion finirait par engendrer la plupart de nos produits de haute technologie, allant des transistors au laser en passant par les horloges atomiques ou les ordinateurs. Mais c'est un autre exemple de cette incapacité à prédire le destin des idées scientifiques qui va nous occuper aujourd'hui. En 1911, le physicien Victor Hess découvrait ce qui sera appelé le rayonnement cosmique. On comprit par la suite que ce rayonnement est constitué de particules qui pleuvent littéralement sur nous. Parmi elles se trouvent des muons. Les muons sont des sortes d'électrons lourds, des sortes d'électrons plus lourds que les vrais électrons, et ils sont capables de traverser de grandes épaisseurs de matière avant d'être stoppés. Or, il fut tout récemment démontré que ces muons permettent de scanner les pyramides d'Égypte d'une façon si originale que cela a permis de découvrir dans la pyramide de Khéops deux cavités qui n'avaient pas été repérées jusqu'alors. S'il avait appris cela, Victor Hess serait tombé de sa chaise, à supposer qu'il fût assis à ce moment-là. Il me semble que toute cette histoire mérite d'être racontée, et c'est ce que nous allons faire avec nos deux invités. D'abord Sébastien Procureur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien nucléaire à l'IRFU, l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Et notre deuxième invité est Mehdi Tayoubi, vous êtes co-directeur de la mission Scan Pyramide.
Bonjour.
Bonjour, vous nous expliquerez ce qu'est cette mission, comment elle va continuer, est-ce qu'elle a déjà trouvé. Et avant, il faut remonter au début de l'histoire, Sébastien Procureur, c'est-à-dire raconter comment on a découvert le rayonnement cosmique. Alors je sais que en 1750, un abbé, l'abbé Nollet, qui était la coqueluche des salons mondains à Paris, notamment la coqueluche du salon de Madame Geoffrin, avait présenté un instrument, l'électroscope, qui permettait de détecter et de mesurer des charges électriques. Alors c'était quoi cet appareil, l'électroscope ?
Alors l'électroscope, comme son nom l'indique, c'est un appareil qui permet de visualiser un corps qui est chargé électriquement. Et en fait, le principe à l'époque était relativement simple. On prenait typiquement une petite lame, enfin une petite feuille d'or qu'on repliait en deux sur elle-même. On la suspendait en son milieu. Et en fait, quand on venait apporter des charges électriques sur cette feuille, bien les deux extrémités qui étaient en regard, comme elles étaient chargées de la même électricité, en fait se repoussaient. Ça, on savait déjà qu'il existait deux types d'électricité, positive et négative, et que des charges...
Vitreuses et résineuses, on
dit. Voilà, c'est ça, à l'époque, oui, c'était encore... Et donc, l'écartement entre les deux feuilles d'or permettait de voir la quantité d'électricité qui était stockée sur la feuille. Donc ça s'appelait les électropes à feuilles d'or. Alors ça a été amélioré au fil des siècles, parce que notamment un problème qui se posait pour faire des études à long terme, c'est que l'électroscope se déchargeait. Alors il y avait plusieurs raisons qui étaient connues à l'époque. L'une des raisons, c'était l'humidité, tout simplement, l'humidité de la pièce. Donc on mettait ça dans des cloches en verre, on mettait de la chaux aussi pour baisser le degré d'humidité. Et malgré ça, en fait, les gens se sont rendus compte que les électroscopes continuaient de se décharger avec le temps, quoi qu'on fasse.
Ça prouvait qu'il y avait une sorte d'électricité qui était présente en permanence et qui constituait une sorte de fond diffus présent dans l'atmosphère.
Alors, d'où elle venait, effectivement, les gens se sont posé des questions entre 1750 et effectivement 1900, enfin le début du XXe siècle. On savait pas quelle était l'origine de ce phénomène qui déchargeait les électroscopes. Est-ce que c'était quelque chose qui venait de la Terre, une radiation terrestre, ou quelque chose qui venait d'ailleurs? Et donc il y a eu un certain nombre d'expériences, dont la dernière effectivement a démontré de manière concluante et définitive en 1911-1912 que c'était un rayonnement qui venait a priori de l'espace.
Mais avant, un prêtre autrichien, je crois, ou allemand, le père Theodor Wolff, était monté au sommet de la Tour Eiffel, qui était l'édifice le plus haut à l'époque, et avait montré qu'au sommet, l'électroscope se déchargeait plus vite qu'à la base, ce qui prouvait que, alors qu'il s'attendait au contraire à l'effet inverse, il pensait que l'origine étant terrestre, la vitesse de déchargement de l'électroscope devait être plus lente au sommet qu'à la base.
En fait, oui, son expérience a, en l'occurrence, pas été complètement concluante. C'est-à-dire que, bon, il a amélioré l'électroscope. On n'était plus électroscope de Nollet du 18e. Et en fait, c'était des appareils qui étaient relativement bien transportables maintenant, sans perdre la quantité d'électricité qu'on avait mis initialement. Et effectivement, il est monté au sommet de la Tour Eiffel, mais bon, dans son rapport, en fait, les mesures sont pas extrêmement concluantes. Et il a fallu attendre d'atteindre des altitudes plus élevées pour pouvoir conclure, en fait.
Et donc, c'est Victor Hess, lui, il monte dans son ballon. Il monte à 6000 mètres d'altitude. Et il montre, par des mesures, que l'accroissement de l'intensité avec l'altitude est net, et ça lui a permis de démontrer que l'origine de ce rayonnement est une source, dit-il, extraterrestre de radiation extrêmement pénétrante. Et c'est ce rayonnement que Robert Millikan, je crois, un peu plus tard, à la fin des années 20, va appeler le rayonnement cosmique.
Voilà, c'est ça. Oui, l'expérience de Hess, pour le coup, est concluante de manière définitive, c'est-à-dire qu'il observe un taux de radiation 4 fois supérieur à 5000 mètres par rapport au niveau du sol. Donc là, le doute n'est plus permis, effectivement, et le rayonnement, l'origine de la décharge des électroscopes est un rayonnement extraterrestre.
Oui. Alors, de quoi est fait ce rayonnement, Sébastien Procureur ?
Alors,
comment est-ce qu'il est créé et de quoi est-il fait ?
Eh bien, c'est une très bonne question. En fait, c'est une question qui a occupé les physiciens pendant plus de 2 décennies après la découverte de Victor Hess. Effectivement, le premier physicien, en tout cas de renom, qui s'est intéressé de près à l'origine de ce rayonnement cosmique, c'est Robert Millikan, qui est connu par ailleurs pour avoir déterminé la charge élémentaire de l'électron. Et en fait, lui, il avait une théorie extrêmement extrêmement précise qui consistait à dire que ce rayonnement, enfin cette radiation, en fait c'était des photons qui venaient d'un peu partout dans l'univers, et en fait le phénomène qui était derrière ça, pour lui, c'était un phénomène de création des atomes. Par exemple, on pouvait créer de l'hélium à partir de l'hydrogène et puis des éléments aussi plus complexes, et en fait ce processus là d'après lui émettait des photons qui arrivaient jusqu'à nous, et c'est ce qu'il a appelé le cri de naissance des atomes, puisque pour lui, en fait, donc c'était un religieux, hein, Dieu était à l'œuvre dans l'univers pour créer des atomes.
Et, il n'était pas religieux, mais il voulait montrer que la science et la religion étaient d'accord sur les grandes questions.
Oui, si elles étaient prises et interprétées de manière correcte, les deux n'étaient pas du tout incompatibles, bien au contraire.
Donc il pensait que l'origine du rayonnement cosmique, c'était des particules neutres, hein, des photons.
Voilà.
Et il s'opposait à un autre physicien, Compton, qui lui pensait que c'était des particules chargées, et la suite de l'histoire lui a donné raison.
Oui, alors la suite de l'histoire a donné raison à Compton, effectivement, mais il y a eu un grand débat à cette époque-là. Alors Compton, c'est pareil, hein, c'est aussi un prix Nobel pour ce qu'on appelle la diffusion Compton. Et donc les deux se sont disputés violemment sur le sujet, sur l'origine de ce rayonnement cosmique. D'ailleurs, le terme rayonnement cosmique, effectivement, vient de Robert Millikan, pensant que c'était justement une radiation, enfin des photons. Et en fait, il y a un certain nombre d'expériences dans les années 20 qui vont permettre, à la fin des années 20, qui vont permettre de trancher sur la nature de ces particules qui nous arrivent, et notamment ce qu'on appelle l'effet de latitude, c'est-à-dire que si les particules sont chargées, en fait, elles doivent interagir avec la magnétosphère, enfin le champ magnétique terrestre, et être légèrement déviées vers les pôles. D'ailleurs, c'est comme ça que Birkeland avait interprété.
C'est l'effet est-ouest.
Non, il y a deux effets, en fait. Il y a l'effet de latitude et il y a l'effet est-ouest. Donc l'effet de latitude, c'est similaire, en fait, à ce qui se passe pour la formation des aurores polaires. C'est ce qu'avait montré Birkeland quelques années avant. En fait, des particules chargées ont tendance à suivre les lignes de champ magnétique de la Terre et à arriver plutôt au pôle. Donc on doit enregistrer plus de radiation au pôle qu'à l'équateur. Et ça, il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été menées par Compton et Millikan, effectivement, et leurs étudiants. Et la conclusion qui est arrivée en 1927 est qu'effectivement, il y avait un peu plus de particules au niveau des pôles que de l'équateur. avec des choses un petit peu amusantes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, Millikan avait envoyé un étudiant qui s'appelait Neher vadrouiller en Amérique du Sud pour faire des mesures avec les électroscopes et mesurer les taux de radiation en fonction de l'altitude. Et en fait, ils ont pas trouvé d'effet. Donc la dispute avec Compton s'est envenimée jusqu'à ce qu'en fait Neher s'aperçoive que les électroscopes qu'il avait amenés ne marchaient pas. Et quand il a refait la manip avec d'autres électroscopes, en fait, il a mis effectivement en évidence l'effet de l'altitude.
Mais c'est une controverse qui a occupé les journaux, notamment le New York Times, pendant plusieurs mois, plusieurs années peut-être.
Je pense pas qu'il y ait d'équivalent aujourd'hui, mais il faut imaginer deux prix Nobel qui s'écharpent sur des questions de physique. Enfin, effectivement, c'était, je pense que ça devait être assez amusant pour le monde extérieur.
Mehdi Tayoubi, je rappelais en vous présentant que vous êtes co-directeur de la mission Scan Pyramide. Est-ce que vous connaissiez cette histoire de la découverte du rayonnement cosmique que vient de raconter Sébastien Procureur? Vous intéressez aux muons, à leur application, à ce qui se passe et ce qui se trouve plutôt à l'intérieur des pyramides. Est-ce que vous connaissiez tout ça?
Alors j'ai découvert en fait toute l'histoire des muons assez récemment, c'est-à-dire quand on a commencé à s'interroger il y a quelques années sur la manière et les technologies que l'on pourrait utiliser pour scanner et radiographier des monuments aussi massifs que les pyramides. Et cette rencontre s'est faite avec les muons, s'est faite de manière relativement fortuite, c'est-à-dire que ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille sur les problématiques autour des pyramides et du mystère de leur construction. Et il se trouve qu'un chercheur japonais, professeur Tanaka de l'université de Tokyo, qui travaille sur les principes de myographie et sur la myographie, nous a contacté il y a un peu plus de 4 ans, parce qu'il avait vu un documentaire qu'on avait fait autour du mystère de la construction des pyramides, et lui-même travaillant sur les problématiques de radiographie des volcans pour essayer de comprendre et d'observer les chambres magmatiques des volcans grâce aux muons. Il a tout de suite fait le parallèle entre la forme d'un volcan et la forme d'une pyramide et nous a contacté en disant « je pense que les muons peuvent résoudre votre problème ». Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait ces particules
que
je ne connaissais pas.
Et qu'est-ce qui vous intéressait dans la question de la construction des pyramides? Quelles sont les questions qui se posent?
Alors j'ai mis le doigt dans la problématique en fait autour de la construction des pyramides il y a à peu près une dizaine d'années, quand j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Houdin et qui avait une théorie sur la construction des pyramides. Moi, à l'époque, je dirigeais une équipe chez Dassault Systèmes qui consistait à mettre à disposition nos compétences, nos technologies de simulation de réalité virtuelle auprès de gens passionnés. Il se trouve que Jean-Pierre était quelqu'un d'extrêmement passionné qui avait laissé tomber son métier d'architecte pour se consacrer à ce mystère de la construction des pyramides. Et donc moi, au même titre que les muons, je ne savais pas en 2005, quand je l'ai rencontré, que la construction des pyramides était encore un mystère. Et pendant plusieurs années, on l'a accompagné en simulant en fait si sa théorie pouvait tenir la route. En gros, c'est si on reprenait à peu près les processus qu'il décrivait, si on calculait les forces nécessaires, le nombre de personnes nécessaires, tout ça grâce à la réalité virtuelle et à la simulation scientifique, est-ce que sa théorie tenait la route ou pas? Et sa théorie avait quelque chose de relativement intéressant et séduisant scientifiquement, c'est que si il avait raison, sachant que lui, en fait, base sa théorie sur le principe de l'existence d'une rampe interne en spirale dans la pyramide, c'est que sa théorie était scientifiquement prouvable sur le terrain. C'est-à-dire que si Jean-Pierre a raison, la rampe interne est toujours là, il suffirait de trouver les moyens techniques et technologiques de voir à travers la matière et de voir à travers la pierre sans toucher à la pyramide pour vérifier si cette théorie était exacte. Et cette rencontre avec Jean-Pierre, en fait, m'a ouvert, en fait, à toutes les autres théories qui pouvaient exister sur les pyramides. Certaines sont séduisantes, certaines marchent jusqu'à un certain point, et à ce jour, on ne sait toujours pas comment elles ont été construites. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les techniques non invasives et non destructives qui permettent de voir à travers la matière ont fait des bons phénoménaux depuis les 30 dernières années. La dernière mission qui avait été menée sur le plateau de Gizeh pour essayer d'observer la pyramide et de détecter des vides date de 1986. À l'époque, la Fondation EDF était allée faire de la microgravimétrie pour étudier en fait des différences de gravité qui peuvent laisser penser qu'il peut y avoir des vides dans certaines zones. Le dernier résultat concret que l'on a du terrain grâce à cette technique de microgravimétrie, c'est une anomalie en forme spiralée, et depuis 30 ans, il ne s'est plus rien passé. Et c'est de là qu'est née en fait l'idée de se dire, toutes ces techniques ont évolué, depuis 30 ans, il ne s'est rien passé sur le terrain, comment pouvons-nous réunir autour de nous les meilleures équipes scientifiques maîtrisant des techniques non destructives et non invasives pour nous aider à observer les pyramides, à essayer de voir à travers la pierre, et de voir si on est capable, avec cette nouvelle approche, de découvrir des cavités.
Et c'est là qu'interviennent les muons, on va en reparler, mais avant, on va écouter une chanson que vous avez choisie, qui s'appelle « Mon ami la rose », je crois.
Absolument, Mon ami la rose de Natacha Atlas.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
Pourquoi ce choix de cette très belle chanson?
Eh bien, c'est une chanson tout simplement qui nous met face à la réalité de la brièveté de la vie et face à ce mystère auquel on s'attaque et qui nous rappelle tout simplement, qui me rappelle tout simplement en fait l'humilité à laquelle on doit faire face aux pyramides. Il y a plein de gens qui ont essayé de s'attaquer à ce...
Elles ont vu passer des générations.
Les pyramides ont vu passer des générations, elles ont été déshabillées au Moyen-Âge, plusieurs califes se sont succédés pour essayer de révéler des pièces, de trouver des trésors. Et dans la mission Scan Pyramide, ce qu'on défend avant tout, justement, c'est cette humilité face à la tâche qui nous attend. On sait qu'on a des gens, que tous les scientifiques sont en permanence dans le doute, on est dans ce doute. Ce que l'on sait, c'est qu'on fera progresser la connaissance. Et malheureusement, l'égyptologie a beaucoup souffert ces dernières années de batailles d'ego, d'Indiana Jones en chapeau qui décidait tout seul, face contre tous, de révéler le mystère des pyramides. Et les valeurs qu'on défend dans la mission, dans cette mission, c'est justement cette pluridisciplinarité, le fait d'être une équipe internationale, le fait d'être dans cette démarche du doute et du questionnement. On sait tous qu'on n'arrivera sans doute pas à résoudre de manière définitive le mystère des pyramides et on souhaite simplement ajouter cette petite pierre à l'édifice pour ces monuments qui nous survivront sans doute encore 10 000 ans.
Ce qui est sûr, c'est que les pyramides étaient là depuis bien longtemps quand on a compris l'origine du rayonnement cosmique, on a compris que Ces particules sont induites par un rayonnement cosmique primaire, essentiellement des protons et des particules alpha, et qui entrent en collision avec les noyaux d'azote ou d'oxygène qui sont dans la stratosphère à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Et ces collisions créent des gerbes de milliards de nouvelles particules qui ont été mises en évidence en 1938 par Pierre Auger, et parmi lesquelles se trouvent les fameux muons. Alors Sébastien Procureur, moi je suis embêté avec cette histoire de la découverte des muons, parce que j'ai lu quelque part qu'ils avaient été découverts en 1929 par un physicien allemand qui s'appelle Bothe. D'autres sources disent que cela s'est passé en fait en 1936, d'autres en 1937, d'autres en 1947. Et donc 18 ans d'écart sur la date de la découverte d'une particule, c'est beaucoup. Comment est-ce qu'on explique cette variété d'origine?
Bien, c'est probablement parce que pour pouvoir déterminer avec précision la date de la découverte du muon, il faut s'entendre sur qu'est-ce que c'est qu'une découverte, et qu'est-ce que ça veut dire que détecter une particule. Si on part du principe que on a détecté une particule quand on a détecté les effets qu'elle produit, à ce moment-là, il faut situer la détection du muon au XVIIIe siècle, puisqu'on savait déjà que les électroscopes se déchargeaient à ce moment-là. Bon, évidemment, on pourrait dire que la première détection vraiment d'une particule, d'un muon, elle a eu lieu probablement effectivement dans les années 20, alors peut-être par Walter Bothe ou d'autres. Ce qui est sûr, c'est que Bothe, effectivement, à la fin des années 20, avait utilisé un dispositif d'un détecteur de particules, qu'on appelle le compteur Geiger, qui avait été mis au point quelques années auparavant. Et en fait, c'est l'un des premiers détecteurs de particules, hein, au sens moderne où on l'entend, c'est-à-dire qu'il pouvait déterminer quand une particule passait à travers, donc c'était un cylindre rempli de gaz avec des champs électriques, et ça produisait une étincelle à chaque fois qu'une particule chargée passait. Donc effectivement, Bothe et d'autres certainement à la même époque ont détecté ces premiers muons, mais sans savoir que c'était des muons. Donc la question restait encore ouverte. Et les recherches sont poursuivies par un certain nombre de personnes, notamment l'étudiant de Millikan qui s'appelait Carl Anderson, qui a commencé aussi à étudier le rayonnement cosmique, en tout cas le rayonnement secondaire, hein, puisque les particules secondaires qui sont produites dans l'atmosphère par ce rayonnement primaire. Et lui a utilisé un détecteur de particules qui était aussi disponible à l'époque, qui s'appelait une chambre à brouillard, une chambre de Wilson, qui est un dispositif assez magnifique d'ailleurs, si quand vous avez l'occasion de voir comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment visuel en fait, on voit les trajectoires des particules, on voit pas les particules elles-mêmes, mais un peu de la même manière qu'un avion, enfin on voit une traînée blanche dans le ciel, on peut voir effectivement la trajectoire de la particule dans ce détecteur. Et donc tous ces gens-là ont commencé à étudier de manière plus systématique et plus rigoureuse ce rayonnement. Alors effectivement, les gens maintenant, enfin au début des années 30, on sait que le rayonnement primaire, ce sont des particules chargées. On sait que ce qui nous arrive, c'est pas forcément la même chose. Il y a eu des transformations entre les deux. Et en fait, en étudiant les trajectoires, soit dans les chambres à brouillard, soit les coups laissés dans un compteur Geiger, les physiciens vont s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de particules dans ce rayonnement. Et notamment en 1932, Anderson va découvrir le positron.
L'antiparticule de l'électron.
Voilà, c'est ça, qui avait été plus ou moins prédit par l'équation de Dirac 2 ans auparavant, et dont les physiciens vont rapidement comprendre qu'en fait, effectivement, il s'agit de l'antiparticule de l'électron. Et donc il faut comprendre qu'en fait à cette époque le rayonnement cosmique constitue le moyen le plus facile en fait de faire de la physique des particules. Il n'y a pas encore d'accélérateur digne de ce nom en tout cas. Et donc la plupart des physiciens s'intéressent de près à ce rayonnement-là. Et en fait concernant le muon, les premières découvertes vraiment où les gens vont comprendre qu'il s'agit bien d'une nouvelle particule datent des années 35-36 à peu près. Alors c'est un effort, c'est pareil, on parle de découverte du muon. En général, les gens disent aujourd'hui, c'est Carl Anderson en 1936. C'est plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de travail de théoriciens. Il y a Bethe et Adler qui calculent des paires d'énergie dans la matière. Il y a Oppenheimer qui commence à décrire les gerbes en termes de gerbes électromagnétiques. Et il y a effectivement côté instrumentation des gens qui mesurent qui observent des trajectoires et qui se demandent si ces trajectoires sont des électrons, sont des protons, des choses comme ça.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors, une fois que cette particule est détectée, on la caractérise, elle ressemble à l'électron, elle est plus massive que l'électron, elle a une charge positive ou négative, il y a un muon positif qui est l'antiparticule du muon négatif. La durée de vie, elle est très courte, 2,2 microsecondes.
Oui.
Alors ça me pose un problème, parce que en admettant même que ces particules aillent à la vitesse de la lumière, si leur durée de vie est de 2 microsecondes, elles parcourent 600 mètres dans l'atmosphère. On a dit qu'elles étaient produites à plusieurs dizaines de kilomètres au-dessus de la surface du sol. Et donc, comment est-ce qu'on explique ce décalage ?
Eh bien, en fait, c'est un simple effet de relativité restreinte. C'est-à-dire que ces particules qui voyagent à une vitesse proche de la lumière, en fait, subissent une dilatation du temps par rapport au temps que nous, observateurs immobiles, ressentons. Et effectivement, à cause de ce phénomène de dilatation du temps, les muons peuvent parcourir des distances beaucoup plus grandes que la simple distance.
Donc, si on était à cheval sur un muon, on le verrait disparaître au bout de 2 microsecondes.
Voilà, mais comme
si on le
pas
voit
cheval,
passer, il peut durer pour nous beaucoup plus longtemps que si on était dans son propre référentiel.
Exactement.
Et alors, ils viennent d'où les muons au sens de la direction, ils viennent de toutes les directions, ou bien est-ce qu'ils sont dirigés selon une direction privilégiée ?
Alors, encore une fois, le muon, donc c'est un rayonnement secondaire, c'est-à-dire que c'est pas lui qui est produit dans l'univers et qui arrive dans la haute atmosphère. Mais effectivement, il a, vu que les énergies du rayonnement primaire, les énergies sont extrêmement élevées, il a pratiquement la direction de la particule incidente. D'ailleurs, pour donner un ordre de grandeur de ces énergies, en fait, les physiciens mesurent en puissance d'électronvolts, mais qui disent pas forcément grand chose. Mais on a mesuré des particules, donc du rayonnement cosmique primaire, qui avaient des énergies équivalentes à une balle de tennis lancée à 150 km par heure. Donc il faut s'imaginer ce que c'est, sachant qu'effectivement c'est concentré sur une seule particule. C'est ça qui rend l'énergie.
J'ai lu le 15 octobre 1991, un rayon d'une énergie jamais éteinte est venu frapper un détecteur de l'expérience Fly Eyes, voilà, œil de mouche dans l'Utah. 320 milliards de GeV. Une énergie tellement importante que les chercheurs l'ont baptisée « Oh my God ».
Voilà. C'est typiquement américain.
Mais ça aurait plu à Millikan, je pense, comme événement.
Oui, probablement. Mais sauf qu'effectivement, le processus qu'il avait invoqué à l'époque n'était pas correct. Mais donc, toujours est-il, pour en revenir à ces muons, donc, à cause de ces énergies qui sont vraiment phénoménales, la direction du muon est pratiquement la direction de la particule qui l'a créée initialement. Et effectivement, il y a des gens qui ont, depuis plusieurs décennies, se sont intéressés à savoir où ces particules étaient produites dans l'univers, et notamment si on pouvait identifier des sources en mesurant la direction d'arrivée des muons. Et en fait, le résultat a été que le rayonnement est relativement isotrope, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de source ponctuelle dans l'univers. Le rayonnement vient d'un petit peu partout. Alors on a des idées maintenant, il y a une partie qui vient du vent solaire à basse énergie, mais il y a aussi une partie qui vient certainement de supernovas, de noyaux actifs de galaxies, etc. On ne comprend pas bien encore aujourd'hui d'ailleurs l'origine exacte de ce rayonnement cosmique, en tout cas la partie à plus haute énergie. Mais voilà, non, c'est un rayonnement qui est isotrope, effectivement.
Et qu'est-ce qui vous a amené, Sébastien Procœur, dans votre carrière de physicien, à rencontrer les muons et à consacrer maintenant l'essentiel de votre recherche à leur détection ?
L'essentiel, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on travaillait à l'époque donc à l'IRFU, hein, l'Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers. En fait, moi, je travaille au service de physique nucléaire. Et j'ai fait un certain nombre d'expériences sur la structure du proton, enfin ce qu'on appelle la structure du nucléon en général, que ce soit au CERN ou aux États-Unis. Et en fait, pour faire ça, eh bien, donc c'est des expériences qui sont dans des accélérateurs. Donc on provoque des réactions entre une cible et un faisceau, qui est parfois d'ailleurs un faisceau de muons aussi. Et donc pour détecter les réactions qui nous intéressent, on est obligé d'équiper ce genre d'expérience avec ce qu'on appelle des spectromètres. Donc c'est un ensemble de détecteurs de particules. Et on a notamment à partir de 2006 au laboratoire fait un certain nombre de R&D pour améliorer les détecteurs de particules existants en vue de les installer au laboratoire Jefferson aux États-Unis. Et en fait, en faisant ces développements, on s'est rendu compte que on avait fait une petite modification sur un détecteur qui le rendait très intéressant pour effectivement détecter des muons de manière relativement simplifiée, c'est-à-dire un détecteur portable qui n'est pas trop cher et qui consomme pas beaucoup. Et donc à partir de là, ben, on pouvait faire des télescopes qu'on pouvait sortir des labos et détecter des muons en fait pour faire de l'imagerie.
Et vous êtes ainsi amusé à détecter la variation du niveau d'eau d'un château d'eau.
Oui, alors en fait, on a convaincu notre hiérarchie à l'époque, enfin qui était déjà très convaincue, mais que ce serait effectivement intéressant de valider les performances du télescope à muons qu'on avait construit auprès d'un monument. Et alors, il se trouve qu'à Saclay, le monument le plus pratique pour ça, c'est effectivement le château d'eau, parce qu'il est à la fois assez haut et effectivement, il y a des effets de dynamique, puisque le niveau à l'intérieur varie. Et donc, en mai 2015, on a installé notre premier télescope à muons pour faire ce qu'on appelle donc la muographie du château d'eau, à la fois en statique, donc on a fait une image un petit peu comme une photographie, d'ailleurs il y a beaucoup d'analogies entre une muographie et une photographie, et on a fait aussi de la dynamique, effectivement, en mesurant les variations de la hauteur d'eau.
Mais ce qu'il faut dire peut-être pour qu'on comprenne le principe de fonctionnement, c'est que la probabilité qu'un muon qui traverse de la matière soit arrêté dans cette matière dépend de la densité de cette matière et de sa composition.
Oui, c'est ça. En fait, c'est des choses qu'on calcule assez bien maintenant, qui d'ailleurs datent de l'époque à peu près de la découverte du muon dans les années 30. Bethe et Hettler avaient calculé les pertes d'énergie de particules relativistes dans la matière. Et effectivement, plus une particule traverse un milieu dense ou épais, on parle d'opacité, c'est le produit des deux, plus la particule va perdre de l'énergie et donc, in fine, s'arrêter. D'autant que le muon est instable, en fait, donc à un moment, il va se désintégrer.
Et on observe. Quoi ?
Alors, il se désintègre en électrons et en neutrinos, en l'occurrence. Et lui-même est produit par des pions, d'ailleurs. Enfin, donc, c'est toute une cascade de réactions, en fait, qui intervient dans le...
Et qu'est-ce qui fait qu'un muon est si difficile à arrêter ? Quelle est la propriété qui lui confère ce pouvoir de pénétration ?
Par rapport à un électron, bah justement, c'est la question qu'ont dû répondre les physiciens dans les années 30, c'est qu'ils se sont aperçus que le rayonnement dont ils pensaient que c'était des électrons, en fait, pouvait traverser un mètre de plomb avant de s'arrêter. Et ça, c'était incompatible avec les calculs, effectivement, de pertes radiatives qui avaient été faites à l'époque. Et la propriété du muon, en fait, qui le rend si pénétrant, peut-être un peu contre-intuitive, mais c'est sa masse, en fait. Sa masse est plus élevée que celle de l'électron. Et il se trouve qu'à cause de ça, en fait, les pertes par radiation, qu'on appelle le Bremsstrahlung, sont beaucoup plus faibles, puisqu'elles varient avec le carré de la masse. Et donc, un muon peut traverser beaucoup plus de matière qu'un électron.
Donc là, j'ai sous les yeux, malheureusement, la radio, une photographie, enfin une muographie. De ce château d'eau. On voit clairement la position du niveau d'eau qui peut varier. Donc on peut, sans pénétrer dans le château d'eau, voir de l'extérieur, à condition que on attende un peu la variation du niveau d'eau. Il faut combien de temps pour accumuler cette précision de l'image ?
Alors, l'image qui est là, en fait, elle a été prise en quelques semaines, je crois 4 semaines. Après, il faut dire qu'on était relativement loin, que le télescope qu'on avait était petit, c'était encore un prototype. Après, on s'est mis plus près, donc on a amélioré en quelques jours, on a réussi à peu près à sortir la même image. Mais évidemment, le temps d'exposition est beaucoup plus long qu'un appareil photo classique, parce qu'il y a moins de muons que de photons, évidemment. Donc, il faut
Mais c'est une expérience qui marche de jour comme de nuit, du coup.
Oui, c'est une expérience qui marche du jour comme de nuit. S'il y avait eu un mur ou des arbres, d'ailleurs il y avait des arbres entre le télescope et le château d'eau, en fait, on aurait eu l'image aussi. D'ailleurs, on a eu pas mal de visites à ce moment-là, et les gens, en passant devant le télescope, disaient « Ah ben non, je vais perturber l'image », on leur expliquait « Mais non, parce que vous êtes très mince, en fait, comparé au pouvoir de pénétration d'un muon, donc il n'y a pas de risque ».
Alors, vous avez choisi, Sébastien Procureur, une chanson qui s'intitule « Dust ». Nous allons l'écouter.
Χάθηκε στη σκόνη η ζωή. Η ζωή που χάθηκε στη σκόνη. Αχ, το φεγγάρι
που χάθηκε στη σκόνη.
Sébastien Procureur, qui est le chanteur et pourquoi ce choix? Vous avez passé quelques semaines dans le désert égyptien, c'est ça, Dust?
Oui, oui, c'est une chanson qui s'appelle Dust, effectivement, Poussière, une chanson d'un chanteur grec qui s'appelle Georges Dallaras, qui n'a pas beaucoup de rapport forcément avec l'Égypte, en fait, c'est lors d'un voyage en Crète que je l'avais découvert. Et bon, il n'y a pas vraiment de sens caché, c'est juste que c'est une chanson qui, je trouve, est assez relaxante. Et donc, quand on parle de rayonnement cosmique, qui me paraît assez adapté. Alors, peut-être qu'à 14h le samedi, ça va faire dormir les auditeurs, j'espère que non. Mais bon, quand j'étais petit, je faisais de l'astronomie. Et c'est vrai que je passais du temps, des nuits entières, dehors, à regarder le ciel. Et ce genre de musique, bon, je ne sais pas, je trouve que c'est assez adapté, en fait.
Alors, je reviens à cette histoire de Château d'Eau, l'expérience que vous venez de décrire. A été réalisé en septembre, enfin, c'est terminé en septembre 2015. Mmh. Et l'annonce de ce projet de scanner les pyramides a été faite le 25 octobre 2015. Je pense qu'il y a une relation entre ces deux événements qui vous a mis en connexion, Sébastien Procureur et Mehdi Taïoubi. Comment ça s'est passé?
Et tout simplement, nous avons effectivement lancé la mission le 25 octobre 2015. Et à l'époque, nous avions déjà réuni deux équipes scientifiques capables de faire de la myographie avec deux technologies différentes. Donc le 25 octobre, on annonçait que l'université de Nagoya nous rejoignait avec une technique de myographie à base d'émulsion chimique. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un détecteur capable d'identifier les traces de muons. On doit être capable de compter le nombre de muons et de connaître leur distribution angulaire pour ensuite créer l'image de myographie. Les Japonais, eux, ont développé cette technique à base d'émulsion chimique, un peu comme la photo argentique à ses débuts. L'avantage, c'est que ça ne consomme pas d'énergie, c'est que ça ne coûte pas très cher, c'est qu'on peut déposer ces plaques un petit peu partout, même dans les endroits les plus compliqués dans la pyramide. L'inconvénient, c'est qu'on a des temps de traitement, de calcul et d'analyse optique et logiciels beaucoup plus complexes. La deuxième équipe qui nous avait rejoint à l'époque était le KEK, c'est-à-dire le centre d'accélération de particules de Tsukuba à côté de Tokyo, et eux ont développé une technique à base qu'on trouve de manière beaucoup plus fréquente en myographie, à base de scintillateurs avec un détecteur plastique, un plastique sensible en fait au passage du muon, et à partir de deux grilles, on compte le nombre de muons et on détermine leur trajectoire. Et j'ai tout simplement reçu, suite à l'annonce presse qui avait été faite, un mail de Sébastien sur notre site internet disant « Mais vous savez que nous aussi, en France, on maîtrise des techniques et des technologies de myographie qui sont extrêmement complémentaire des deux approches que vous avez déjà intégrées à votre mission. » Et donc là, on s'est rencontrés, on a discuté, et j'ai compris que les détecteurs à gaz du CEA avaient un avantage, c'est-à-dire qu'ils étaient plus précis que les scintillateurs en plastique, scintillateurs plastiques du KEK, moins précis certes que les émulsions argentiques du professeur Morishima de l'université de Nagoya, mais du coup, on pouvait bénéficier d'une approche alternative. On pouvait aussi bénéficier sur le terrain, sachant qu'on n'est pas focalisé sur la pyramide de Khéops, on étudie réellement les quatre pyramides de l'Ancien Empire, en se disant que si une nous livre un secret, ça va peut-être permettre de comprendre les principes constructifs des autres pyramides. Et alors disposer de plus d'hommes, disposer en plus d'équipes françaises, nous permettant aussi de valoriser la technologie et le savoir-faire aujourd'hui de nos chercheurs.
Sébastien Procureur, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire à Mehdi Taïoubi?
Bah, en fait,
pour proposer vos services, vous pensiez aux pyramides?
Non, initialement, nous, on pensait pas aux pyramides. Alors, on avait, quand on a fait le Château d'Eau, encore une fois, c'était vraiment pour valider les performances du télescope. On avait pris contact avec d'autres personnes qui faisaient de la myographie en France. Il n'y a pas qu'au CEA, il y a des gens qui ont commencé même avant nous, notamment à l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Ils faisaient déjà de la volcanologie, en fait, avec des télescopes.
Avec l'idée qu'on pourrait prévoir les éruptions?
Oui, oui. Bah, c'est les mêmes travaux que ce qui est mené au Japon par le professeur Tanaka et d'autres personnes. L'idée, c'est d'aller vraiment sonder l'intérieur d'un volcan et de voir s'il y a des transferts, des mouvements de matière qui peuvent être des signes précurseurs d'une éruption volcanique. Donc, on était plutôt parti dans cette optique-là. Moi, j'avais un rêve à ce moment-là qui était de tomographier la Tour Eiffel. Je me suis dit que ça pourrait être une expérience sympathique que les gens pourraient venir voir comme ça en sortant du travail ou le week-end en famille. Et
il n'y a pas de cavité dans...
Non, il n'y a pas de cavité. L'idée, c'était plus de voir voilà, à quoi pouvait servir la recherche fondamentale. Et puis, bon, mais donc, toujours est-il que, un petit peu par, enfin, complètement par coïncidence, effectivement, la mission Scan Pyramide a été lancée en octobre. Nous, on venait de rapatrier, de ramener le télescope au château, dans notre laboratoire. Et donc, on s'est dit, tiens, ben, pourquoi pas, on a un télescope, ça peut peut-être leur servir. Et,
voilà. Et c'est comme ça que tout a commencé. Alors, qu'est-ce qui a commencé?
Sachant que tout n'a pas réellement commencé comme ça. C'est que Sébastien, un jour, m'a envoyé un mail. Sa maman avait retrouvé dans ses archives d'enfants, une bande dessinée de Nesquik à l'époque, où on voit le lapin Nesquik avec des lunettes magiques, capable de voir à travers la pyramide. Et moi, je suis persuadé que tout ingénieur et que toute innovation vient de nos rêves d'enfants. Et je pense qu'inconsciemment, Sébastien a toujours eu envie d'aller voir les pyramides.
Ça s'y confirme.
Non, c'est une anecdote qui est.
Qui plairait
un petit peu.
Qui plairait aux psychanalystes qui sommeillent en chacun d'entre nous.
Effectivement, bon, le timing était vraiment très bon.
Donc et alors, comment ça s'est passé? Vous avez chargé vos instruments dans un camion?
Déjà, il a fallu les construire parce que le télescope qu'on avait, bon, c'était malgré tout un prototype. On s'est rencontré avec Mehdi en décembre. On a fait une mission de reconnaissance en janvier. Et là, on s'est dit que par rapport à la version du télescope qu'on avait fait, il fallait quand même apporter un certain nombre d'améliorations. Parce que entre une manip à Saclay au château d'eau et une manip dans le désert au pied des pyramides, ben les conditions environnementales sont pas les mêmes.
Qu'est-ce qui change? L'humidité?
L'humidité, c'est pas vraiment un problème. Alors la chaleur, ça l'est parce que c'est des composants électroniques, donc il faut quand même que ça tienne. Donc à un moment, on a mis le télescope dans une enceinte climatique jusqu'à 55 degrés, et puis on a regardé que ça fonctionnait encore. Le niveau de poussière aussi, parce qu'encore une fois, les composants électroniques aiment pas forcément la poussière. Donc il y a eu tout un tas de choses, et puis
la stabilité. Il faut surtout pas que ça bouge.
Oui, non, il y avait beaucoup d'améliorations. Le poids aussi, parce que le premier proto était assez lourd et difficile à trimballer. Et donc, à partir de ça, en fait, on a fait un design d'un nouveau télescope à muon, et on en a produit, en l'occurrence, trois, donc l'équivalent de 12 détecteurs de particules qu'on a construit entre le mois de janvier et le mois d'avril-mai. Enfin, en mai, ils ont été envoyés en Égypte.
Et vous vous y êtes rendu vous-même avec votre équipe. Et
c'est ça.
Vous êtes resté combien de temps?
Alors en fait, on a deux personnes qui sont parties avant, qui étaient Patrick Magnier et Marc Rialo, qui avaient fait le design de l'instrument et participé à l'intégration. Donc eux sont partis en mai pour vérifier sur place. On avait déjà envoyé un télescope que tout se passerait bien. Ils l'ont même emmené au pied de la pyramide pour voir si on arrivait, par exemple avec la 3G, etc., si on arrivait à communiquer. Et le reste de l'équipe est parti un mois après, quand les autres télescopes sont arrivés. Donc fin mai, début juin, on est resté une semaine pour l'intégration et le déploiement.
Et donc, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous voyez l'entièreté de la pyramide ou vous avez choisi des zones particulières?
En fait, on a sciemment choisi de se mettre sur l'arête nord-est de la pyramide de Khéops, à l'extérieur, parce qu'on savait qu'à 83 mètres de hauteur sur cette pyramide, on avait une cavité connue. Et l'objectif était de valider en fait le fonctionnement des trois télescopes sous des angles différents, être sûr que chacun des télescopes était capable de voir cette cavité connue, pour valider le principe de fonctionnement, pour ensuite déployer les télescopes sur d'autres arêtes. Alors c'est vrai que ce qui peut être un peu frustrant dans ce type de mission quand on fait de la myographie, c'est le temps d'attente. Alors on pensait qu'en un mois et demi, les trois télescopes seraient capables de voir la cavité C2, qu'on appelle la cavité C2. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus de statistiques, donc on a prolongé la mission d'un mois et demi avec toutes les problématiques de gestion du gaz, parce que ce sont des télescopes qu'on charge en argon, donc il fallait être sûr qu'on serait capable de tenir sur cette durée-là. Au bout de trois mois, on a validé que les trois télescopes avaient bien détecté à la fois la plateforme qui est à l'air libre à 83 mètres de hauteur et la cavité qui ressemble à une sorte de petite grotte qui s'enfonce dans la pyramide qui fait à peu près 9 mètres carrés de surface. Et c'est là qu'avec Sébastien et les équipes de l'IRFU du CEA, on a eu la surprise en fait de détecter une autre cavité de volume similaire en fait à la cavité connue et elle qui se trouve à 105 mètres.
D'autres sur une hauteur totale de combien?
Alors la pyramide fait 146 mètres. Et là, on est à peu près à 105 mètres. Donc, c'est là que j'ai appris le terme de validation en termes de statistiques en physique des hautes énergies. C'est-à-dire que Sébastien est arrivé en disant, voilà, je valide que la cavité que je trouve à 105 mètres, on est à 5 sigma, c'est-à-dire que sa probabilité d'existence est de 99,4 × 9.
C'est comme pour la détection d'une particule, finalement, c'est le même critère.
Oui, oui, en fait, on a appliqué les critères standards, donc relativement rigoureux, de la physique des particules pour annoncer avec certitude qu'il y avait une cavité.
Donc vous avez vraiment vu la cavité C2 qui était déjà connue et vous avez découvert une nouvelle cavité qui s'appelle C1.
Sachant que d'autres anomalies ont été découvertes, mais tant qu'aujourd'hui on n'atteint pas justement ces 5 sigma, voilà, on est encore en train d'analyser toutes ces données.
Ce sont des mesures qui ont pris plusieurs mois, mais qu'est-ce que vous faites pendant ces mois d'attente? Vous attendez que la statistique s'accumule ou est-ce qu'il y a des opérations à mener?
Alors en fait, bon, nous on est rentrés, hein, on a passé une semaine sur place à installer les télescopes et on est rentrés ensuite. On avait une communication via 3G pour piloter à distance les télescopes. Alors communication 3G qui était bon un petit peu instable parce que le site n'est pas forcément bien couvert par le réseau. Donc il y avait une équipe locale en fait, notamment avec des étudiants et des ingénieurs égyptiens qui passaient régulièrement pour s'assurer que tout allait bien, éventuellement rebooter les clés pour vérifier les niveaux de gaz, etc., vérifier que le télescope fonctionnait. Et nous, en fait, donc le télescope a une petite carte, ce qu'on appelle un nano-PC, qui traite les données en temps réel et on ne rapatriait que les données pré-analysées. Donc ça fait moins de données à faire passer. Et donc on avait l'image en fait de la pyramide qui apparaissait au fur et à mesure. Donc on...
Sur l'écran de votre ordinateur dans votre bureau.
Sachant que effectivement la cavité, alors l'objectif encore une fois c'était de valider les performances de l'instrument. On voulait détecter en fait une cavité qui était connue mais qui était à 150 mètres de distance, qui était dans 20 mètres de roche. Donc c'est un exercice, enfin pour la myographie c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et en fait quand on a fait des simulations on s'est rendu compte que la présence de la cavité faisait dans la direction en question, donc de la direction de la cavité, un excédent de 1 muon par jour. Donc évidemment, on comprend pourquoi il a fallu attendre 3 mois pour avoir à peu près...
Un muon par jour sur un total de...
Sur un total, alors on enregistrait à peu près 4 à 500 000 muons par jour. Et donc il y en avait un de plus à cause... Alors évidemment, c'est directionnel aussi, hein, donc, mais malgré tout, c'est un excédent qui est très faible. Et donc en 3 mois, on avait typiquement 80-90 muons de plus. Et là, on était statistiquement... sûr que effectivement la cavité était là et on a vu un autre excédent d'un muon par jour dans une autre direction comme Mehdi a dit.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors c'est une découverte qui a été abondamment relayée par la presse. Comment est-ce qu'elle a été accueillie par les spécialistes des pyramides?
Alors aujourd'hui c'est une mission qui est avant tout, je souhaite le rappeler, qui est agnostique en termes de théorie. On sait qu'on a des techniques qui permettent de voir à travers la matière, à travers la pierre. On a terminé les analyses en myographie sur la pyramide rhomboïdale sur laquelle aucune découverte n'a été faite grâce aux émulsions, aux émulsions chimiques. Sur la pyramide de Khéops, aujourd'hui, notre souhait est simplement, en tant que scientifique, en tant qu'ingénieur, de montrer qu'il y a des cavités à certains endroits. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi ces cavités sont-elles là? Et on laisse la main aux égyptologues, aux historiens, aux architectes, pour émettre des hypothèses. Donc, on a dit, la question n'est pas de savoir si la cavité C1 est là ou pas. C1 est là. Maintenant, messieurs les égyptologues, dites-nous à quoi pourrait-elle servir et quelles sont les hypothèses? Et quelles sont les hypothèses aussi en termes de modélisation 3D que l'on pourrait prendre en compte pour pouvoir faire des myographies virtuelles, des simulations virtuelles et comparer les résultats aux myographies réelles?
Mais c'est une cavité qui était accessible. Donc
Alors on ne sait pas s'il est accessible. Il est prévu d'escalader la pyramide, d'emmener Sébastien grimper à 105 mètres pour aller voir ce qu'on peut trouver là-bas. La cavité C2 est accessible. Plusieurs personnes y sont allées. On a des photos de cette cavité. C'était une cavité d'ailleurs qui, au siècle dernier, quand les gens avaient le droit de monter et escalader la pyramide, c'était beaucoup de touristes le faisaient, ils s'arrêtaient dans cette cavité, c'est une sorte de buvette où ils s'arrêtaient avant de poursuivre leur... Donc c'est une cavité qui est relativement documentée. Donc on a effectivement la découverte de Sébastien et de son équipe sur l'arête nord-est, mais on en a une autre en fait qui pose encore plus de questions, c'est la découverte qu'on a faite grâce aussi à la myographie sur la face nord de la pyramide, face que tous les touristes voient quand ils accèdent en fait au plateau de Gizeh, dans lequel on a en plein milieu ces grands chevrons, et derrière ces chevrons, on a détecté une cavité relativement importante qui s'enfonce dans le cœur de la pyramide et qui peut nous laisser penser qu'il y aurait un circuit secondaire aujourd'hui inconnu à ce jour. Donc, on n'est pas là pour dire ce que c'est exactement. Nous attendons maintenant, justement, des égyptologues et des autres, d'autres disciplines, de nous expliquer ce que ça pourrait être, de nous proposer des hypothèses de dessin, des hypothèses architecturales, pour qu'on puisse ensuite les simuler et comparer le réel et le virtuel.
Mais quelle sera la suite de l'histoire ? Est-ce que vous allez retourner là-bas ? Est-ce qu'il y a l'idée de scanner l'intégralité de la pyramide ?
Alors, côté CEA, en fait, donc on a scanné une arête avec trois télescopes. En fait, on avait un télescope face nord, deux télescopes face est qui pointaient vers la même région pour faire des vérifications de l'image. Effectivement, l'objectif maintenant, ce serait de sonder une autre arête pour voir s'il n'y a pas... Il est probable, enfin, bon, moi je ne suis pas égyptologue, mais il est probable qu'il y a d'autres cavités qui s'y cachent. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que l'arête nord-est sur lesquelles il y ait des cavités. Et maintenant, la question intéressante, c'est de savoir où sont placées ces cavités par rapport à celles de l'arête nord-est. Est-ce qu'elles sont à la même hauteur ? Est-ce qu'elles sont décalées en altitude, etc. ? Donc ça va permettre vraiment de discriminer certainement entre différents modèles de construction de la pyramide.
Alors, j'ai lu quelque part que chaque bloc de pierre de la pyramide a un volume de 1 mètre cube et pèse en moyenne 2,5 tonnes, ce qui fait une masse totale de 5 millions de tonnes. Est-ce que votre technique permettrait de mieux comprendre comment ces blocs ont pu être accumulés, comment les pyramides ont été construites ?
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la connaissance que l'on a des pyramides, la coupe de la pyramide telle qu'on la voit dans les livres d'histoire, dans les livres des collégiens, n'a quasiment pas évolué depuis le Moyen-Âge. Et on sait qu'aujourd'hui, simplement en se basant sur ce que l'on a et ce que le terrain nous a donné, qu'on est incapable d'expliquer comment cette pyramide a été construite. Alors certes, vous donnez une moyenne en termes de poids de blocs dans la pyramide, mais il faut savoir que le vrai enjeu et le vrai enjeu architectural et d'ingénierie pour les Égyptiens il y a 4500 ans a été de construire la chambre du roi qui se trouve à 43 mètres de hauteur, qui est faite en granit et qui elle a des poutres qui peuvent monter jusqu'à 60 tonnes. Comment ont-ils fait pour monter ces poutres à 60 tonnes pour faire un plafond plat ? C'est la première fois dans l'histoire des pyramides et de l'architecture égyptienne qu'on utilise le principe des chevrons pour recouvrir un vide. Jusqu'à présent, les Égyptiens maîtrisaient le plafond d'encorbellement. Donc c'est une pyramide qui est unique dans l'histoire, mais qui aujourd'hui, telle qu'on la connaît, ne nous permet pas de la comprendre, sachant que nous n'avons aucun texte, aucun écrit de l'époque qui parle de la construction des pyramides. Donc l'objectif reste toujours le même, continuer à utiliser toutes ces techniques, sachant que la muséographie est une des techniques non invasives et non destructives que l'on utilise. On utilise aussi l'infrarouge, on utilise tout ce qui est scanner 3D, numérisation des pyramides pour mieux comprendre aussi cette architecture et chercher plus de données architecturales et de mesures précises. Et donc voilà, l'objectif est de continuer à déployer tous ces instruments, mais aussi d'accueillir d'autres équipes qui pourraient avoir d'autres idées, d'autres types de techniques que l'on pourrait en fait ajouter à tout le protocole scientifique que l'on déploie.
Vous voulez dire qu'une science qui a été un peu gelée, il n'y a pas eu de progrès depuis plusieurs décennies, pourrait redémarrer avec l'appui de nouvelles techniques ?
Absolument, je pense que l'égyptologie aujourd'hui a besoin de s'ouvrir à d'autres techniques, à cette approche transdisciplinaire, à cette approche internationale. Et réellement l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire discuter toutes ces techniques. On parle souvent pour les spécialistes de l'innovation, de rupture entre les silos, de collaboration interdisciplinaire. La question ensuite, c'est effectivement, comment concrètement ça se met en place sur le terrain, comment chaque discipline est respectueuse des autres et comment on établit ce dialogue. Et c'est de ce dialogue, et on est en train de le prouver sur le terrain, eh bien que naissent ces petites ruptures. Alors certes, ce n'est qu'une petite cavité qui se trouve à 105 mètres de hauteur, c'est une autre cavité qui se trouve face nord. Le fait est que, pendant des années, rien n'avait été découvert.
Alors il y a une exposition à Lille en ce moment, Medita Yubi, autour de art, science et technologie, où vous présentez cette découverte.
Absolument, c'est une exposition qui a été inaugurée le mois dernier et qui va durer jusqu'au 14 février. Parce que la mission Scan Pyramide est certes scientifique, avec toutes ces équipes universitaires de la faculté des ingénieurs du Caire jusqu'au CEA et en passant par nos amis canadiens. Mais c'est une mission qui, dès le début, dès sa conception, en fait, a souhaité intégrer des artistes, a souhaité intégrer différents types aussi de technologies et d'industriels. Et le dessinateur François Skeuten nous accompagne sur le terrain depuis le début de cette mission, car on pense aussi que le regard d'autres personnes que les scientifiques enrichissent cette mission. Donc François dessine sur le terrain, Nicolas Godin, cofondateur du groupe R, travaille aussi à la numérisation acoustique des pyramides. Alors c'est certes une idée qui est à l'origine l'idée d'un artiste, comment numériser le son de la chambre du roi qui est exceptionnel. Mais on se rend compte que dans nos problématiques qui sont des problématiques de préservation du patrimoine qui aujourd'hui se posent plus que jamais. Il faut certes prendre l'empreinte digitale des différents monuments pour mieux les comprendre et les préserver, mais très peu de personnes avaient jusqu'à présent pensé à l'empreinte acoustique. Et c'est un artiste qui nous a donné cette idée, et aujourd'hui, le défi technique qu'il nous pose fait qu'on va aussi faire progresser ce type de technologie.
Sébastien Brocker, cette technique, la muographie, qui consiste à faire des photos, mais sans photons, avec une composante du rayonnement cosmique, les muons, elle s'applique aux pyramides, on vient de le voir, mais elle a certainement d'autres applications. Vous y pensez ?
Oui, on y pense. De fait, à la suite du château d'eau, à la suite des pyramides, on a été contacté par un certain nombre d'industriels. Il y a des gens de Vinci, de la RATP, de boîtes de génie civil, même l'AIEA nous a contactés en disant « Mais votre technique, ça nous intéresse, on pourrait scanner une pile de pont, un barrage, etc. » Enfin, il y a des choses à faire, effectivement. Et donc, effectivement, on est en discussion avec eux pour faire d'autres télescopes. Tout ça étant rendu un peu plus facile par le fait que derrière, on a un industriel qui sait fabriquer maintenant ces détecteurs. Et en fait, les trois télescopes qu'on a fabriqués pour l'Égypte, on n'aurait jamais réussi à les faire en l'espace de 3 mois s'ils n'avaient pas produit les détecteurs aussi rapidement. Et c'est un groupe de circuits imprimés, en fait, qui s'appelle Elvia, qui est en Normandie, qui a réussi à fabriquer 6 détecteurs en l'espace d'un mois et demi. Donc, c'est ça qui nous a permis de...
Et donc, vous avez l'impression que ces détecteurs vont proliférer ? Et trouver des usages auxquels personne n'avait pensé auparavant. Vous-même, est-ce que vous saviez qu'un jour vous iriez en Égypte installer vos instruments?
Non, ça c'est une certitude que quand on faisait des manips en labo pour le laboratoire Jefferson, on n'avait pas idée qu'on irait un jour faire une expérience en Égypte. En fait, c'est difficile à dire encore, savoir s'il y a vraiment un énorme marché de la muographie. Mais bon, effectivement, on est contacté par un certain nombre de personnes. Peut-être un jour, il y aura une start-up qui se fera, y compris avec Mehdi d'ailleurs.
On a fait tout à l'heure l'éloge de l'interdisciplinarité, mais est-ce qu'il y a une contamination des sujets d'intérêt ? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'aller faire ces mesures auprès de la pyramide de Khéops vous a donné la passion de l'égyptologie ? Et est-ce que les égyptologues se sont passionnés pour les particules ?
Bon, ça pour eux, il faudrait y répondre, mais un scientifique, a priori, qu'il soit physicien, biologiste ou... doit a priori être curieux de nature. Donc moi, j'étais pas spécialement intéressé par l'égyptologie. Bon, ma mère était passionnée d'égyptologie, mais on s'y intéresse nécessairement, surtout quand on a la chance de faire une découverte sur un site aussi exceptionnel. Donc on commence à lire effectivement les différentes théories qui sont derrière, etc. Donc oui, c'est intéressant, forcément.
Mehdi Tayoubi, quelle est la suite pour vous du programme ?
Bien, la suite, la mission devait initialement durer une année. Elle a été reconduite. On pensait qu'on pourrait faire plus de mesures et étudier plus de pyramides pendant cette période, mais on a été confronté aussi à la réalité du terrain. C'est bien de sortir des technologies des labos de recherche fondamentale, mais ensuite, quand on les confronte aux réalités, eh bien nécessairement, ça nous oblige à améliorer, à changer les processus, à faire évoluer le matériel, et c'est ce qui sert aussi en fait dans toute cette démarche d'innovation. Ça c'est dans les deux sens, c'est à la fois comment innover dans la connaissance que l'on a des pyramides, mais en quoi ces pyramides qui sont mythiques et emblématiques donnent envie aux ingénieurs et aux scientifiques de faire évoluer leur technique. Donc l'objectif est de continuer à sonder sans la toucher la grande pyramide de Khéops, en plaçant des dispositifs à d'autres endroits, et puis ensuite pourquoi pas de s'attaquer aux deux autres pyramides de l'ancien empire que sont la pyramide de Khéphren et la pyramide rouge.
Pour conclure, j'ai une petite anagramme à vous offrir. Vous en ferez le miel que vous voudrez. La physique des particules a pour anagramme les purs acquis de la pitié. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci à vous deux.
Merci.
C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Manuel Couturier et à la réalisation François Connac. Tout de suite, vous retrouverez Antoine Guillot pour Plan Large, le nouveau rendez-vous cinéma de France Culture.